10h40 dans le point de Max à Boulevard 102.1. Je vous en ai déjà parlé à quelques reprises là, depuis que la nouvelle est sortie ce matin. La multinationale Glencore qui envisagerait de fermer la fonderie Horn du côté de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, c'est une nouvelle qui personnellement vient me rejoindre davantage étant un natif de l'Abitibi. La fonderie Horn, j'en entends parler depuis mon très jeune âge, mais c'est quand même un dossier qui a fait couler l'encre partout au Québec dans les derniers mois, dans les dernières années. Et pour en parler, Sébastien Lemire, il est député fédéral bloquiste dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Lemire, bonjour.
Bonjour, Monsieur Laroche.
Cette nouvelle-là, ce matin, comme je disais, ça vient frapper plus fort en Abitibi-Témiscamingue. Ça vient quand même aussi frapper ailleurs au Québec. Avant toute chose, j'aimerais ça, là, pour les gens de Québec qui sont à l'écoute puis que ça leur dit peut-être pas grand-chose, qu'est-ce que ça représenterait pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue si la fonderie Horn devait fermer à Rouyn?
La nouvelle d'aujourd'hui, moi, je la prends pas à la légère, effectivement, pour des raisons que tu mentionnes. Dans le contexte, pour les gens de Québec, Glencore, c'est aussi, il y a des actifs, évidemment, avec le port. On les a entendus parler par rapport à l'enjeu de la poussière orange, là, chez vous. On sait que c'est une multinationale qui a beaucoup d'actifs partout dans le monde. Au Québec, c'est particulièrement la fonderie Horn de Rouyn-Noranda qui produit des anodes, qui, elles, sont envoyées à l'usine de Montréal-Est, de CCR, qui vont être transformés et après ça, envoyés beaucoup pour l'exportation aux États-Unis. Dans le contexte, si on parle de, tu sais, je veux dire, évidemment, c'est des entreprises qui sont milliardaires, là, tu sais, et la fonderie Horn a contribué au profit de la multinationale Glencore. Si on sort de cette adéquation-là, ça reste quand même effectivement beaucoup de PME gravitent autour de la fonderie Horn, énormément d'employés. C'est plus comme dans le temps où il y avait la mine Noranda puis la fonderie, puis on avait 2000 personnes qui travaillaient là. On est un peu moins, autour de 800 emplois, mais direct, mais si on prend les emplois indirects, c'est encore 2000 jobs, là, tu sais. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Honnêtement, à ce stade-ci, moi, je prends cette nouvelle-là avec énormément de précautions, contrairement à bien d'autres, parce qu'on a entendu, évidemment, les enjeux de la qualité de l'air à travers les dernières années, et la fermeture pouvait être nommée des fois par des adversaires, des fois par des gens de la fonderie, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu plus sérieux. Pourquoi? Parce que ça vient de Londres, ça. Le Reuters qui a sorti la nouvelle, c'est pas juste dans la game politique ou de communication, là, à proprement dit. Mais l'impact peut être important. Mais moi, je veux situer aussi le contexte nord-américain et le contexte aussi mondial. Tu sais, la crise qu'on vit avec Donald Trump sur les tarifs, on n'entend pas beaucoup parler du grief. Mélanie Joly l'a nommé quelques fois pendant une semaine de temps cet été quand les Américains ont imposé des tarifs supplémentaires sur l'aluminium. Mais on n'a pas vu de solution à être envisagée. Hein? On s'entend que quand c'est le pétrole puis le gaz, le gouvernement Carney est très rapide, ça gâchette. Mais les enjeux du Québec, comme la forêt, comme l'aluminium et le cuivre, on n'a pas de son, pas d'image de ce côté-là, et ça, c'est très préoccupant. Mais je comprends pas non plus Donald Trump qui ne veut pas créer une filière, avoir accès à la ressource puis être propriétaire de la ressource comme le cuivre, là, qui est un des minéraux critiques stratégiques les plus importants pour toute la question d'électrification des transports puis la conductivité. Là. L'électricité, le cuivre, c'est le meilleur. Donc, on doit avoir des réserves de cuivre, on doit être capable d'avoir accès à cette ressource-là, et l'Asie est terriblement agressive, particulièrement les Philippines, la Chine, ils contrôlent le marché. Et s'ils contrôlent le marché, ça veut dire qu'ils peuvent faire du dumping, casser les prix, puis scraper une économie comme celle d'Amérique qui n'a pas nécessairement une filière bien, bien établie, là. Et ça, pour moi, ça me préoccupe. Puis il faut le prendre dans un contexte plus mondial, la nouvelle de ce matin, là.
Puis si on reste dans le contexte très local, est-ce que j'ai exagéré ce matin quand j'ai mentionné en ondes qu'une fermeture de la fonderie Horn pourrait quasiment tuer la ville de Rouyn-Noranda? Puis quand je dis tuer, on se comprend, là, mais donner un coup qui ferait excessivement mal à l'économie de la ville?
Bien, c'est évident. Ce n'est plus le premier employeur. mais ça ferait un impact énorme parce que beaucoup d'expertise, l'expertise dans la région, c'est beaucoup des constructeurs de mines, c'est beaucoup évidemment toute la question des tuyauteries, de l'électricité et tout. On aime dire en Abitibi-Témiscamingue, puis tu pourras évidemment cautionner ça, mais qu'il doit avoir un Témiscabitibien dans à peu près toutes les mines dans le monde, tellement notre expertise de constructeur de mines est reconnue. Donc oui, ça va avoir un impact parce que la fonderie, quand ça a été créé en même temps que la ville dans les années 1920, on n'a pas 100 ans encore à Rouyn-Noranda, on va célébrer ça l'année prochaine, mais il y avait l'idée d'une pérennité, d'une ville minière qui était dans un esprit de boomtown. Donc oui, ça a énormément d'impact. Puis moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on devrait agir en renforçant ces actifs-là, qui amènent aussi de l'économie circulaire puis du recyclage, qui est très important. Est-ce qu'on peut faire davantage de transformation à proximité de la ressource? Et ça, c'est vrai dans les mines, c'est vrai en forêt, c'est vrai en agriculture, c'est vrai dans tous les domaines. Pourquoi les gouvernements, puis là, on est à la veille d'un budget, là, avec Mark Carney, pourquoi on ne mise pas, au lieu d'exporter nos ressources, puis d'être à la merci des tarifs ou des contre-tarifs de tous les pays, est-ce qu'on peut amener davantage de transformation puis de valeur ajoutée, créer des emplois localement, là où on exploite la ressource, puis là, on va être capable de vendre nos produits à valeur ajoutée, probablement beaucoup plus cher, et ça assurerait une économie beaucoup plus forte. Les compagnies ont besoin des investisseurs de sentir que les gouvernements ont le goût d'investir là où est la ressource. Puis ça, ben, c'est pas les stratégies qu'on fait. Diversifier les marchés, c'est important. Mais en même temps, si on n'investit pas dans la transformation, pour moi, on se tire dans le pied.
Sébastien Lemire, député fédéral bloquiste dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Glencore qui nie pour le moment, mais a parlé beaucoup là, des coûts de modernisation liés aux normes environnementales dans les derniers mois. Essaye de stéter une subvention pour les entre guillemets, aider à ce niveau-là. D'abord, est-ce que ces normes-là environnementales sont légitimes ou bien on pourrait assouplir un peu?
Évidemment, toute norme est tout à fait légitime. Là, ce qui est nouveau en région, c'est que le premier ministre du Québec, François Legault, s'est nommé comme ministre de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça devient lui qui est l'interlocuteur qui devra effectivement prendre la décision par rapport à est-ce que la norme du 3 nanogrammes est maintenue ou on fait preuve de davantage de souplesse de ce côté-là. On a bien hâte de voir quelles vont être les réactions du premier ministre parce que l'Abitibi-Témiscamingue a fait confiance à la CAQ à la dernière élection en élisant 3 députés, mais cette confiance-là, disons objectivement, s'est effritée beaucoup au courant des dernières années. On attend des bonnes nouvelles de Québec, comme la création d'une zone d'innovation minière. C'est tous des aspects qui nous permettraient effectivement de diversifier une économie puis nous rendre moins dépendants de la fonderie Horn, mais qui est toujours dans l'expertise minière qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'ai bien hâte de voir les actions qui vont être prises par le gouvernement du Québec. Évidemment, c'est moins dans ma cour comme député fédéral, mais ça va avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Et s'il y a un jeu politique qui se joue actuellement, bien, c'est sûr que ça doit être autour de ça parce qu'on n'a pas beaucoup d'écho de la part des gouvernements dans cet enjeu-là.
Puis mettons qu'on jase, là, ça se pourrait-tu que Glencore laisse comme fuiter qu'on va fermer pour se têter une subvention puis se donner du pouvoir un peu puis se dire « Ouais, ben là, le gouvernement ne laissera pas une ville mourir ».
Bien, j'ai fait mes devoirs avant, évidemment, de pouvoir vous parler et la réponse qu'on m'indique, c'est non. Donc, je pense pas qu'il y a une game à l'heure actuelle. Puis de toute façon, tu sais, cette menace-là de la fonderie, évidemment, c'est quelque chose qui est facile à nommer. Là, tu sais, à peu près à chaque fois qu'il y a un conflit, on l'entend. Mais j'ai l'impression que celle-ci, elle est plus sérieuse. Puis moi, j'associe le fait qu'elle soit sérieuse, oui, au contexte, évidemment, de garanties qu'ils veulent savoir est-ce que les investisseurs, est-ce que le contexte va être favorable par rapport au cadre législatif réglementaire. Mais est-ce que le contexte mondial aussi, la filière de cuivre va être rentable pour eux. Et c'est là que je peux avoir des inquiétudes. Donc, je pense pas que c'est nécessairement un pion qui a été donné parce que visiblement, comme ça vient de Reuters, comme ça vient de l'Angleterre, ça m'apparaît des sources qui sont pas des sources locales. Là.
Veille de dépôt de budget à Ottawa, comment on voit ça venir chez le Bloc québécois?
Disons que les attentes sont très, très élevées. On sent qu'on se fait marchander un peu plus depuis une semaine. Et ça, ben c'est quelque chose de préoccupant. On sent pas que les libéraux veulent faire des compromis. Pour le Bloc québécois, c'est très clair. Tu sais, ce qu'on demande depuis plusieurs années, d'abord, un peu plus de dignité pour nos aînés, qu'il y ait des meilleurs revenus dès 65 ans, des meilleurs transferts en santé. Moi, tout ce qui se passe en région particulièrement, mais dans le réseau de la santé, pour moi, il y a une conséquence directe du sous-financement et du désengagement du fédéral. fédérale. J'ai parlé d'investissement dans transformation puis de soutien à nos entreprises, qu'elles soient particulièrement dans l'industrie forestière, mais aussi ailleurs. C'est des choses qui m'apparaissent très raisonnables, mais dans lesquelles on sent peu d'intérêt et d'écho de la part du gouvernement fédéral. J'ai bien hâte de voir demain. Évidemment, je prends pas pour acquis le contenu de ce budget-là, mais l'attitude de Mark Carney en général, c'est quelqu'un qui veut imposer sa vision. C'est pas quelqu'un qui a le goût de travailler en équipe. J'ai peu d'attentes sur ce qui va être présenté demain.
Est-ce qu'on serait prêt à voter contre si ça veut dire qu'on retournerait déjà en élection fédérale?
Évidemment, personne souhaite retourner en élection demain matin, mais moi, j'ai pas le goût, comme député, de dénaturer les engagements que j'ai pris face à ma population en Abitibi-Témiscamingue. Puis dans celle-là, ben, il y a le respect des aînés, le respect des transferts en santé. La transformation à proximité chez nous est quelque chose d'important. Et s'il y a à peu près rien qui est de bon pour le Québec, les infrastructures, le logement, cet argent-là doit pas juste être dans des grandes villes comme Toronto puis Montréal. Il doit avoir aussi de l'argent qui aboutit en région. Pour loger notre monde, ben ça, c'est des choses sur lesquelles moi, je vais être très attentif au budget avant de me prononcer si je vais voter pour ou contre.
Je vais passer de Sébastien Lemire, député fédéral bloquiste dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, que je vous vois poliment depuis le début, à Sébastien Lemire, le gars de Rouyn, qui j'aime bien parler de hockey de temps en temps, parce qu'on se connaît un peu, tu sais, je viens de l'Abitibi, je suis un gars de Val-d'Or, il y a la grosse rivalité. Puis là, d'après moi, tu regardes le classement de la LHGMQ, puis ça te ferait plaisir de me taquiner un brin?
Ben moi, en fait, je t'admire beaucoup pour ta persévérance, puis j'avais le sentiment que c'était pour être l'année des foreurs, mais quand je regarde dans notre conférence que les Huskies sont deuxièmes, les foreurs septièmes, moi je m'attendais à l'inverse, hein?
Ouais.
Fait que je suis un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'on lutte avec Québec pour une place en série, ben honnêtement, là. Fait que les Huskies qui sont encore une fois dans le top de la Ligue, qui ont battu en fin de semaine Halifax puis Charlottetown, ils me surprendront toujours, cette équipe-là avec la Husky Game. C'est une équipe qui me fascine, mais bravo aux partisans des Foreurs qui sont tenaces. Ils ont raison de l'être. Il y a eu des grands succès par le passé, mais effectivement, quand je regarde le classement, on devrait pas être en haut, mais nos 20 ans font la différence visiblement encore cette année. Puis il y a de la fierté encore à Rouyn-Noranda dans l'aréna Glencore.
Ouais, ironiquement, l'aréna Glencore. Mais ce que tu dis sur les Huskies, Sébastien, est tout à fait vrai. Surprenant ce que l'équipe est en train de donner cette saison. Par contre, là, les Foreurs sur place. Là, on a battu Halifax, on a battu Charlottetown en fin de semaine.
Oui, des gros matchs. Regarde. Il y a beaucoup d'ambiance. On me dit ça à Val-d'Or hier parce que mon garçon est allé au match. Là.
Okay.
On jouait, nous, à Val-d'Or, puis il y avait beaucoup, beaucoup d'ambiance. C'est une aréna qui peut être très hostile là, à Val-d'Or. Puis quand l'équipe se met à jouer, moi, un joueur comme Cossette Ayotte, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça devrait être l'année des Foreurs. En tout cas, Maxime, je te souhaite vraiment une équipe gagnante pour les 2-3 prochaines années. Les six sont plus rapides, mais vous avez besoin de bonnes nouvelles.
On n'est pas loin dans le rétroviseur. On se reparle dans 2-3 semaines, puis c'est moi qui vais regarder par en arrière pour voir les Huskies. Sébastien Lemire, député fédéral.
Là, de mémoire, l'année passée, les Foreurs avaient battu combien de fois les Huskies en 8 games?
C'était pas arrivé beaucoup, hein?
Ah oui, 8-0 aussi. OK, mais là, c'était l'année passée. En tout cas, à date, c'est 50-50, un chaque.
OK, Sébastien Lemire, député fédéral bloquiste dans la circonscription de Abitibi-Témiscamingue. On me dit que tu as une rencontre bien importante dans les prochaines minutes. Fait que salut.
Tout à fait. Merci, Max. Monsieur Larouche, à bientôt.
Bye-bye, Monsieur Lemire. Sébastien Lemire, député fédéral bloquiste dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, qui se plaît bien à me taquiner. La grosse rivalité Foreurs-Huskies. C'est plate, j'avais déjà raccroché. Je voulais lui demander c'était quoi qui se passait à Rouyn-Noranda pour qu'on décide de remettre l'Halloween un 25 octobre à puis de pas faire ça le 31. Ce sera pour une prochaine fois. Ça doit être l'arsenic. Non, je peux pas faire des blagues d'arsenic qui est de santé aujourd'hui, avec ce qui se passe avec Glencore, qui envisagerait de fermer la fonderie Horn du côté de Rouyn-Noranda. Pour ceux qui voudraient voir de leurs propres yeux ce que Sébastien disait par rapport à mes Foreurs de Val-d'Or, ça tombe bien parce que vous aurez l'occasion de voir ça deux fois plutôt qu'une au Centre Vidéotron cette semaine. Deux matchs entre les Foreurs et les Remparts. Un premier ce mercredi 19h, un deuxième ce vendredi à 19h. Pour les Remparts de Québec, ça va pas super bien non plus. Là, on est présentement... Quoiqu'on a retrouvé une place en série. On est actuellement au 16e rang. C'est la dernière place qui donne accès aux séries éliminatoires de la LHGMQ. Donc, on tentera de solidifier cette place-là ou même de monter de quelques rangs au classement dans les prochains jours face aux Foreurs de Val-d'Or. Dans les prochaines minutes, Audrey Pinchot s'en vient pour l'Open Mic à Boulevard 102. On jase avec l'ami Virginie Gagnon, que vous voyez peut-être à l'occasion dans votre télévision. Vous l'entendez peut-être aussi chez nos amis de Weekend. Ben là, elle saute la clôture et vient nous voir à Boulevard avec Audrey pour l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max.